Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jadar le 22 juin 1989.
Vous dites que les sensibles propres sont premiers. Or, nous avons vu que le son est le fruit d'un choc, d'un mouvement qui est un sensible commun. Ceci est donc premier. Comment résoudre cette apparente contradiction? Autre chose est la causalité efficiente, autre chose la causalité formelle. Voilà la résolution de la contradiction apparente. Le son est produit par un choc. Oui, c'est évident. Ce mouvement est un sensible commun, mais il peut avoir comme effet, comme fruit, un sensible propre. Le son. La causalité efficiente. La causalité efficiente. Alors vous allez me dire, tout agent agit semblablement à lui-même. Attention. Enfin, pour qu'il y ait son, il faut qu'il y ait mouvement. En réalité, c'est une condition sine qua non pour que le son apparaisse. Mais le son ne se réduit pas au mouvement. Il peut y avoir des mouvements, je crois que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, des mouvements dont le son soit de moins en moins fort. Le métro de Paris, quand vous avez des pneus qui glissent sur le rail, ça ne fait pas de bruit du tout. Vous cherchez par tous les moyens à atténuer le son. C'est vrai, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. Donc, c'est pas cause au sens, c'est cause efficiente, mais en réalité, c'est cause sine qua non, raison sine qua non. Pas de son sans mouvement. Mais le son est autre chose que le mouvement. Alors d'où ça vient le son? Oui, le son provient du mouvement, mais le son comme tel est un sensible propre. Et le son, dans ce qu'il a de plus fort, sera la voix humaine. Et la voix humaine sera saisie par Louis. Et Louis saisira la voix humaine. Et l'intelligence liée à Louis va saisir la signification de la voix. Et c'est dans ce sens-là que la voix et Louis sont à la racine de toute communication. La philosophie de la communication, c'est toujours le point de vue de du son, de la parole. Humaine et Louis. Il y a des difficultés là-dessus. Oui.
La reproduction du son actuellement se fait par la grandeur, c'est-à-dire qu'on mesure le son pour le transmettre en nombre. Donc ce que vous dites, ça veut dire que ça transmet ça par exemple la musique, puis pour la musique.
Voyez. Tout ce que vous pouvez mesurer, vous le mesurez en fonction justement du support quantitatif. Il n'y a pas de sensible propre sans sensible commun. C'est la même chose pour la vision. Vous mesurez tout ce qui est sensible commun. Le sensible propre comme tel échappe à la mesure. C'est ça qui est très curieux. Ça, les savants ont beaucoup de peine à comprendre ça. Parce qu'ils sont tous un peu positivistes. Alors que de fait, il y a quelque chose d'unique dans le son et dans la parole. Oui. Tout le côté affectif de la parole échappe à la mensuration. Oui, mais vous pouvez mesurer. Vous pouvez mesurer les proportions, l'harmonie. Tout ça, ça me se mesure. Mais l'harmonie, dans ce qu'elle a de qualitatif, ne se mesure pas. C'est pour ça que vous direz, il y a des gens qui ont de l'oreille, il y en a qui ne l'ont pas. Comme pour la vision. Oui.
Qu'est-ce qu'un micro, un système d'amplification, modifie par rapport au sensible commun ?
Le sensible commun. Le micro ne peut amplifier que le sensible commun.
Et qu'est-ce qu'il transmet par rapport au sensible propre ?
Il transmet le support. Et alors, dans la mesure où ce n'est pas trop exagéré, le sensible propre demeure. Mais en fonction du sensible commun. Alors là, c'est toute l'histoire. C'est très important, ces choses-là, parce que c'est capital. C'est la même chose pour la vision. Microscope électronique. Qu'est-ce qu'on transmet ? Les sensibles propres ne sont transmis qu'en fonction. C'est pour ça. C'est tout le problème de la communication. Ça. Autre chose est d'entendre quelqu'un directement ou d'entendre par l'intermédiaire d'un instrument. C'est pas la même chose. Heureusement. Donc il y aura tout le temps le contact personnel qui est unique et qui ne remplacera jamais le contact intermédiaire. Même si vous dites scientifiquement c'est la même chose, oui, scientifiquement c'est la même chose, mais je ne réduis pas les sens à l'aspect scientifique. Et la vie des sens. C'est ça qui serait très intéressant, vous savez, étudier de façon tout à fait philosophique, d'étudier ce que c'est que la communication. Parce qu'on fait la théologie de la communication aujourd'hui. À Fribourg, il y avait un père dominicain qui avait fait sa thèse sur la théologie de la communication. Je veux bien, je ne crois pas qu'on puisse dire de la théologie de la communication. La théologie de la communication, c'est la révélation. Premier analogué. Et la révélation, Dieu se sert d'un être vivant. Il ne se sert pas d'un instrument, il aurait pu tout enregistrer. Il y aurait quelque chose qui ne serait pas transmis. Quelle différence y aurait-il ? Parce que ça se pose aujourd'hui. Vous pouvez tout enregistrer. Tout, absolument tout. Alors vous allez enregistrer une messe. Quand il n'y aura pas de messe, ben vous mettrez tout simplement l'ordinateur bien en ordre. Puis ça y est. Puis ils enregistreront la messe. Est-ce que ce sera une messe ? Non. Ah, vous aurez tout entendu. Absolument tout enregistré. Est-ce que ce sera une messe ? Et là, vous touchez directement ce qu'il y a d'unique. À venir, ah, c'est une question de foi. Mais non, c'est pas une question de foi. C'est une question de sensible propre. Le sensible propre seul touche ce qui est. Le sensible commun peut s'abstraire, peut se mesurer, se communiquer. Et vous communiquez ça. Et au bout d'un certain temps, vous oubliez complètement les sensibles propres. Et vous restez dans le vécu. Et vous n'en sortirez jamais. Vous resterez dans l'immanence du vécu. Alors ce sera de plus en plus précis, de plus en plus précis, mais de plus en plus, vous serez prisonnier du vécu. Nous allons vers ce monde-là. Quantité de jeunes resteront dans le vécu. Et par le fait même, ne sauront plus ce que c'est que la foi. Ils seront tous hégéliens. philosophie hegelienne, c'est la philosophie du vécu. Philologie de l'esprit. Il n'y aura plus jamais contact réel avec quelqu'un. La communication, vous communiquerez votre vécu. Et vous recevrez le vécu d'un autre. Il y aura intersubjectivité dans le vécu. Il n'y aura plus aucun contact affectif. Il n'y aura plus aucune la présence. Vous transformerez la transsubstantiation dans la transsignification et la transfinalité. Et vous croirez que c'est ça. Toucher du doigt ça. L'instrument est une chose très belle et terrible. Parce que vous croyez que l'instrument transmet tout. Non. C'est le mesuré, le mesurable. Alors évidemment, ça amplifie, c'est merveilleux. Je suis bien obligé de dire que c'est merveilleux. Mais attention, attention. C'est merveilleux, mais c'est terrible. Alors, ça n'a pas d'importance quand c'est dans un petit auditoire et où, au fond, la signification est plus importante. Dans un cours de philosophie, la signification est plus importante que l'aspect du sensible propre. Je reste, moi, avec mes sensibles propres. L'instrument, je m'en occupe pas. Au début, oui. Et au début, ça vous coupe l'inspiration. Hein, complètement. Au bout d'un certain temps, on n'occupe plus, et là, ça vous coupe pas l'inspiration. Au début, ça coupe l'inspiration. Il suffit de faire l'expérience soi-même. Hein. C'est très curieux comme expérience. Et alors, on comprend qu'un monde qui ne vit plus que de cela, puis il n'y a plus de contact avec le réel. Et le jugement d'existence disparaît. Et heureusement que pour le toucher, c'est beaucoup plus difficile de mettre un instrument. Le toucher, c'est le sens du jugement d'existence. Le goût, l'odorat. Mais la voix, c'est terrible. C'est le sens de la communication. Et c'est pour ça que la musique n'est pas première. La musique n'est pas ce qui vous donne le plus le sens du réel, ou pas du tout. C'est ce qu'il y a de plus imaginatif. Les grands musiciens sont des imaginatifs extraordinaires. C'est beau, tu vois, c'est très beau. C'est pas ça qui vous donnera le sens du réel. C'est très très curieux ces choses-là. C'est très intéressant. C'est le sens de la communication. C'est pas le sens de l'expérience. Si vous vivez que du communiquer, du partager, eh bien au bout d'un certain temps, vous ne saisirez plus le réel. L'affectivité, toutes les modulations, c'est pas du sensible propre. Il y a des voix agréables, il y a des voix très désagréables.
Mais alors c'est dans un sens interne. Si on regarde le sens externe dans l'analyse.
Mais le sens externe, mais l'analyse, vous ne pouvez pas l'analyser. La faculté de sensible, vous ne pouvez pas l'analyser. Vous analysez l'organe. Et vous croyez analyser le son. Non. C'est l'organe que vous analysez. C'est comme lorsque vous analysez l'œil en mettant des verres, vous ne touchez pas à la faculté. C'est la connaissance que vous avez du son qui vous fait toucher le sensible propre. Et la voix est enveloppée d'affectivité, c'est sûr, qui agit sur le sensible propre. Alors il y a en plus la signification, Oui, dans un cours de philosophie, ce que vous cherchez avant tout, c'est de communiquer les significations. La finalité, c'est ça. C'est pas vous mettre dans un climat poétique. Non, vous allez vous reposer et écouter, et puis vous serez... Non, ça n'a rien à voir avec le problème de la signification. C'est poétique, imaginatif. Un cours de philosophie cherche le point de vue des significations. C'est pour ça qu'il y ait un instrument qui permette d'entendre ou pas entendre, ça n'a pas grande importance. Mais si vous restiez uniquement au niveau du sens, ça aurait beaucoup d'importance. Du son, ça aurait beaucoup d'importance. Oui.
Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette dualité entre sensible propre et sensible commun ?
C'est pas une dualité, c'est une distinction. Je suis féroce, mais chaque fois que vous envoyez. C'est pas une dualité, c'est une distinction.
C'est-à-dire que chaque sensible peut nous apparaître de deux manières ou...
Toujours, tous les sensibles apparaissent de deux manières. Et dans la mesure où la science s'empare de nos sens, la science développe les sensibles communs. Et il fait croire qu'on développe les sensibles propres. Pas du tout. C'est lié avec l'intentionnel, c'est évident. La connaissance est intentionnelle. Et dans la connaissance, il y a le sensible propre. Le sensible propre est dans l'intentionnel, c'est sûr. Ma sensation, elle est intentionnelle. Alors, vous communiquez quoi dans l'intentionnalité ? Les sensibles communs. La source implique les sensibles propres. Alors, il y a l'équilibre. Vous allez comprendre ça beaucoup plus facilement quand on est en face du point de vue de l'œil. C'est beaucoup plus facile à comprendre, parce que l'œil, c'est la précision. Le son, c'est pas la précision. C'est pas le point de vue musical et le point de vue du son qui est la plus grande précision. Non. C'est pour ça que je dis, le romantisme se développe surtout du côté musical. C'est sûr. Du côté pictural, tout à seulement au bout de 3 minutes. Tandis que... Oui, mais ça va pas du tout. C'est... On a une espèce de... On a besoin d'une précision. L'œil a besoin de ça. Alors, du côté vision, c'est très net. Quel est le sensible commun de la vision ? La figura. Très difficile à traduire. La figura, la physionomie, la figure, très bien. Quand vous regardez une feuille de chêne, pas sur les... une feuille de chêne réelle, qu'est-ce que vous voyez, hein ? Je la dessine pas parce que je la dessinerai très mal. Et la figura d'une feuille de chêne, c'est très typique pour celui qui connaît un tout petit peu. Puis il y a la couleur, il y a le toucher. Bon, vous pouvez arriver à reproduire parfaitement une feuille de chêne, à s'y méprendre. Dès que vous la touchez, dites ah non. Mais dès que vous la voyez, si vous êtes très affiné au point de vue de la vie, la vision. Ah non, non. Des couleurs. Ah oui, mais c'est des couleurs qui sont très particulières parce que ce chêne pousse de telle manière. On est arrivé à changer complètement de couleur, c'est vrai. On change complètement la couleur des fleurs. On n'a rien aujourd'hui. Et nos sens sont agacés. Moi, je ne sais pas, mais nos sens sont agacés. C'est artificiel, pourquoi ? Parce que vous êtes habitué au naturel. Mais c'est naturel. Ça a changé. Chimiquement, vous avez changé. Mais l'unité de la figura et de la couleur, de la lumière, c'est l'unité de ça. Vous voyez l'unité, pas l'unité. Vous le retrouvez là. Et c'est comme ça, vous dites, feuille de chêne, l'harmonie qui existe entre la figura, la couleur et la lumière. Et ça, la couleur, oui, vous arrivez à transmettre la couleur, puisque vous peignez. Mais c'est artificiel. C'est quelque chose d'ajouté. Et quand vous avez un œil suffisamment précis, qualitatif, vous distinguez les deux. Alors, le grand truc, je le dis tout de suite maintenant, j'aurais dit après, ça n'a pas d'importance, c'est que l'image, le fruit de l'imagination renverse l'ordre des sensibles communs et des sensibles propres. Dans vos cauchemars, on a des cauchemars, dans vos rêves, qu'est-ce qui passe en premier lieu, les sensibles communs ? La multitude. Vous êtes poursuivi. La rapidité des chiens qui vous poursuivent et qui vous portent au mollet. C'est arrivé, ils vont tellement vite, vous n'arrivez pas. Au début, vous courez à toute vitesse, vous n'arrivez pas. Oui, c'est le mouvement, c'est le repos. Vous êtes enlisé, vous êtes cloué. Vous ne pouvez pas partir. C'est les sensibles communs, les figurants. La figure du démon, oh, effrayant, ce masque effrayant, c'est ça, les cauchemars. C'est pas les sensibles propres, c'est les sensibles communs, qui deviennent énormes, qui prennent tout. Quand vous êtes très fatigué, les sensibles propres disparaissent. C'est ce que font les psychanalystes aujourd'hui. Ceux qui s'intéressent aux rêves, ils s'intéressent toujours aux rêves. Ceux qui s'intéressent aux rêves uniquement au point de vue du mythe, parce que les rêves c'est toujours mythique. C'est le vieux reste, hein. Le patrimoine mythique que nous avons encore, il renaît dans les rêves. Si on était très très cultivé, il n'y aurait plus de rêves. Est-ce que Jésus avait des rêves, hein? Est-ce que Marie avait des cauchemars? Hein? Posez-vous la question encore. Vous ne l'avez jamais posé, je suis sûr. C'est pourtant très intéressant de voir ça. Un livre écrit Les cauchemars de Marie. Ça se vendrait comme des petits pains. Les rêves du Christ. Le démon, les rêves éveillés. Des rêves, le démon. Il vit de rêves et de cauchemars. Alors, dans les cauchemars, les sensibles propres disparaissent. Quand vous êtes fatigué, les sensibles propres disparaissent. Et les psychanalystes, quand ils revoient les sensibles propres, ils m'ont dit ça sans avoir du tout la distinction des sensibles communs et des sensibles propres. Ça m'a beaucoup intéressé de voir comment un psychanalyste analyse des rêves. C'est très intéressant. Parce que dès qu'on est moins fatigué, les sensibles propres réapparaissent. Mais ils sont tout le temps relatifs aux sensibles communs. Alors que dans la réalité, c'est l'inverse. Le sensible commun est sujet, support des sensibles propres. Donc il y a une inversion qui se fait par l'imaginaire. L'imagination inverse tout par rapport au réel. C'est très très curieux ça. Et c'est très très intéressant parce que ça explique les synthèses que font l'imaginaire. L'imagination, c'est la première faculté synthétique. Elle fait des produits synthétiques. C'est propre de l'imagination. Elle fait des synthèses. Elle fait des tout. Alors que les sensations à l'état pur ne font jamais le tout. Vous ne pouvez pas faire la synthèse. Vous avez un art de touche, et uniquement de touche. C'est l'imagination qui fait la synthèse, qui fait le tout. Pourquoi ? Parce que les sensibles communs, c'est mesurable. Et donc c'est la partie de tout. Vous pouvez faire des synthèses des sensibles communs. Vous ne pouvez pas faire de synthèse des sensibles propres. Donc, vous voyez, il faut arriver petit à petit à distinguer les sensibles propres des sensibles communs. Ce n'est pas commode, hein, parce que c'est complètement perdu sur le marché. Mais c'est très important, c'est capital. Vous n'arriverez à retrouver un équilibre sain et profond que dans la mesure où vous arrivez à distinguer sensible propre et sensible commun. Autrement, vous resterez dans votre imaginaire, dans votre vécu, et vous rêverez tout, certains jours, et même vous aurez des cauchemars à réveiller, et vous vous précipiterez sur la porte pour regarder s'il n'y a pas un assassin derrière. Il y a des gens comme ça, j'en connais. Ils rêvent tout haut. Pourquoi ? Il n'y a plus le contact. S'il n'y a plus le contact, c'est délirant. S'il n'y a plus le contact avec le réel, mais c'est angoissant. L'angoisse, c'est cette perte du contact avec le réel. Et cette perte avec le réel, vous ne le redécouvrez pas par le vécu. Oui, c'est le danger des cassettes. Ça, il ne faut pas trop utiliser. Le cours est différent des cassettes. C'est évident. Parce qu'elles sont sensibles propres. Les cassettes, non. Les sensibles propres sont par le sensible. C'est pour ça que c'est gênant. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire de trop. De temps en temps, par mode de répétition, très bien. Mais ça ne remplacera jamais un cours direct. Jamais. Quand vous connaissez la personne et que vous avez suivi des cours, vous pouvez, à titre de répétition. Autrement, vous ne le retrouverez jamais. C'est très curieux, ça. Oui.
Quelle est pour vous alors la différence entre écouter une cassette et lire un livre de...
Ben, le livre a l'avantage de ne pas vous tromper. Les cassettes, vous croyez que, ça vous... que vous êtes en présence. Non. Vous ne pouvez pas donner l'absolution par les cassettes. Je t'envoie l'absolution. Vous m'enverrez vos péchés, vite. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais c'est très curieux tout ça. Il faut y réfléchir. Hein. C'est les sensations, c'est la philosophie des sensations. Qui ne se fait plus. Qui ne se fait plus, philosophie des sensations. Vous faites tout ça par la science, les sciences humaines. Et les sciences humaines ne touchent pas les sensibles propres. Ils sont, mettent entre parenthèses le jugement d'existence. Alors, ce qui est très intéressant, c'est voir la transformation que fait l'imaginaire. Alors, c'est transmissible. Un homme qui ne vit que de l'imaginaire, tout est transmissible. Un vieux fou qui n'est pas transmissible. Puisque même dans l'imaginaire, il y a les sensibles propres qui réapparaissent. Mais conditionnés par les sensibles communs. Ordonnés aux sensibles communs. Mais on vit un monde imaginaire. Et on pense rééduquer quelqu'un par l'imaginaire. Jamais vous ne rééduquerez quelqu'un dans son équipe. Oui.
Il n'y a pas un lien particulier avec l'amour, le fait de...
Sûrement, sûrement. Il y a un lien particulier, voyez, avec le jugement d'existence et l'amour. L'amour à cause de la personne.
Mais les sensibles communs, on ne peut pas les aimer pour
tout. Non, on ne peut pas. On ne peut pas aimer les sensibles communs. Les sensibles communs, quand ils sont transmis, c'est très bien. Je suis très heureux qu'ils soient transmis. C'est merveilleux. C'est une merveilleuse invention. L'ordinateur est une invention extraordinaire, mais terrible. C'est peut-être le dernier suicide de l'humanité qui se suicide elle-même. Je ne vais pas raconter cette histoire. Professeur Marois, qui a lancé l'Institut de la vie, un cher ami, professeur de médecine, de biologie à la faculté de médecine à Paris, qui dit toujours, je suis plus médecin que savant. Je dis, c'est grâce à ça qu'on peut parler ensemble. Parce qu'en tant que médecin, il est un artiste. En tant que savant, il ne l'est pas. Alors c'est pour ça qu'on s'entend. C'est en ce sens-là que l'art est plus proche de la philosophie que la science. C'est vrai, parce que l'art met en pleine lumière les sensibles propres. Un grand artiste, hein, les grands artistes. Ce que le cinéma fait beaucoup moins. C'est pour ça que le cinéma est dangereux. Et une culture uniquement au niveau du cinéma est très dangereuse. Parce qu'elle vous fait perdre pied. Je me souviens, ce que m'avait dit quelqu'un, un petit bonhomme de 7 ans, allant pour la première fois au cinéma, c'était le film sur Jeanne d'Arc, qui à l'époque avait fait courir beaucoup de gens, qui était beau du reste. Et bien ce petit gosse, au bout de quelques instants, disait toujours à son père, c'est son père qui m'a raconté ça, « Mais papa, partons, tout ça c'est faux. Partons, c'est faux. » Je trouve ça admirable. Vous ne voulez pas rester là. C'est ce même petit gosse qui, regardant un coucher de soleil, était sur un petit mur de quelques mètres de haut, était aplati là-dessus, regardez ça, un coucher de soleil magnifique. Là, il y avait l'échelle qui était encore là, il ne voyait pas arriver. J'arrive tout doucement. Puis je le prends par la peau du dos pour être sûr qu'il ne tombe pas. Par la peau du tout, et je dis, ah, c'est beau. Arrive, regarde, il dit, Dieu est beau. Oui, réaliste du gosse. Nous voyons beaucoup de soleil, il dit, ah, c'est beau. Dieu est beau. Saint-François. Le chien a une gueule qui fait penser à Dieu, ou le loup, plus exactement, c'est le loup. Parce qu'elle est moins abîmée. L'autre est plus éduqué. C'est plus proche de Dieu. Les sensibles propres sont ça. Alors, grande conférence sur l'ordinateur. J'y ai pas été, hein, mais j'ai eu les échos après. Il avait invité le pontife de l'ordinateur. Un américain, je ne sais plus qui. Pontife de l'ordinateur. Qui est arrivé où il y avait 150 grands savants. Hein, en habit de prêtres et de grands prêtres. Grand voile, toute une ornementation. Parler sur l'ordinateur. La grande invention de notre monde d'aujourd'hui, le pontife de l'ordinateur. Bon, alors il fait une conférence en montrant comment l'ordinateur met une accélération extraordinaire au progrès scientifique et qu'enfin on pourra découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvert avant. Alors, grande question après, il a fait sa conférence. Est-ce que l'ordinateur ne pourrait-il pas nous dire s'il sera l'instrument du suicide collectif de l'humanité? C'est beau comme question. Alors, le pontife de l'ordinateur dit, je demande un quart d'heure de silence pour résoudre cette question grave. Mais n'importe quel individu aurait dit spontanément en 3 minutes, non. Lui, il fallait un quart d'heure. une demi-heure, là c'était un quart d'heure de silence. Tout le monde reste en silence. Je vous un silence. Le pontife de l'ordinateur. Je dis, c'est du théâtre, c'est extraordinaire. Mais je trouve ça extraordinaire. Le pontife de l'ordinateur. Eh bien non, l'ordinateur ne peut pas dire comment les hommes termineront leur vie sur la Terre. Et s'il y aura un suicide collectif. Parce que l'ordinateur, évidemment, ne peut pas être prophète. Il répète, il communique d'une façon extraordinairement rapide, avec des choses extraordinaires comme relations, mais il vit dans les relations. C'est une propriété du mouvement. Tout le monde sait ça. Depuis que le TGV existe. C'est une qualité du mouvement. C'est pour ça qu'on aime d'aller vite. Parce que c'est une propriété, une qualité du mouvement. Et que la vitesse engendre la vitesse. On ne peut pas dire plus. Et c'est intéressant de voir ça. Le pontif de l'ordinateur. J'aurais aimé le faire venir ici, hein. Ça nous aurait amusé beaucoup. C'est vrai, c'est très intéressant. Sensible commun qu'on transmet. Rien de plus. Et la science demeure dans les sensibles communs. C'est pour ça que la science appliquée au sens, attention, ça peut mener à un déséquilibre foncier, imaginatif. C'est de l'ordre de l'imagination. Et l'imagination ne remet jamais quelqu'un sur ses deux pieds. Ça, c'est le toucher. Il faut être très, très net là-dessus. Hein. Si on n'est pas très net là-dessus, on se laisse embarquer. Parce que les savants sont très forts comme séduction. C'est très, très fort. Les mathématiques ont l'avantage que les mathématiques, elles, savent qu'on est dans les mathématiques. C'est-à-dire dans les sciences humaines, on croit atteindre la personne. On croit rééquilibrer quelqu'un. Et non, on ne peut pas. Vous restez dans le vécu. Et le vécu ne vous rééquilibrera jamais. Il faut sortir du vécu. Alors vous y sortez par l'amour ou le jugement d'existence. Il n'y a pas d'autre sortie. Là, vous touchez quelque chose qui dépasse, qui transcende. Très très important, ça, pour nous, et pour ceux qu'on aura à diriger. Parce que si vous les orientez vers le vécu et des sciences humaines, ben vous dégraderez tout le temps. Pas commode, hein, ça. Bon, continuons. Je vais aller très vite. Le goût et la saveur, le goût. Il y a le goût et l'odorat. On a parlé des autres. Alors, le goût, c'est un sens. Très particulier. Parce qu'il est interne. Il est interne. Quand vous goûtez un bonbon, vous le goûtez grâce au mouvement. Vous avez une mâchoire d'âne qui peut avaler n'importe quoi pour mieux goûter. C'est sûr. Ou vous faites rouler le bonbon pour mieux goûter. Hein? Vous voyez les sensibles communs et les sensibles propres. Mais rouler le bonbon, ce n'est pas le goûter. Goûter du vin. Et l'odorat. Parce que les premiers psychologues disaient Dumas. Le gros traité de psychologie. Fermez les yeux, bouchez-vous le nez, vous ne distinguerez pas entre le thé et le café. Alors, quand vous dites ça aux amateurs de thé, ils sont furieux. Furax. Mais faites l'exercice, on vous fera. Acceptez qu'on vous bande les yeux, qu'on vous serre le nez, hein, fortement. Et puis on vous servira du chaud. Et vous distinguerez le thé et le café, vous n'arriverez plus. L'odorat est nécessaire pour la distinction du goût. C'est pour ça que les gens qui ont perdu l'odorat, il y a des maladies qui font perdre l'odorat. C'est terrible. Ils ne goûtent plus rien. Et les gens qui ont un odorat très fort, oh, là, il n'y a pas de danger de les tromper. Un bon vin, on doit le sentir avant de le goûter. Et tous les gens qui sont des gourmets sentent, quelquefois d'une façon indiscrète, tellement l'odorat et le goût sont liés l'un et l'autre. Et l'aspect ascétique du noviciat, c'est que vous devez arriver à ne plus sentir. Accepter. C'est une ascèse. Hein. Alors, le goût, c'est un sens interne, très fort. C'est un toucher interne. Alors, vous goûtez les saveurs des choses. Et la saveur première, c'est justement ce qui, le sel, une des premières saveurs, le sel, très curieux, le sel de la sagesse, hein? Le goût. Vous ne sentez pas le sel, oui, le sel de la mer, vous sentez la mer à travers le sel, c'est curieux. Bon, le sel, très communiqué aux hommes. Le sel qu'on vend sur le marché, un sel très raffiné, plus beaucoup d'odorat. C'est perdu. Mais sensible comme, hein. Ça se vend mieux sur le marché. Les hommes aiment le sel bleu, blanc, insipide. On perd le goût. Ça se perd. Et l'odorat, c'est le sens de la finalité, l'odorat. Tandis que le goût, c'est le sens de la causalité exemplaire. Mais, une espèce d'intériorité. Dans le goût, il y a une intériorité. C'est pour ça qu'on dit gustate et videte. Goûtez et voyez combien Dieu est aimable. Gustate. Les mystiques se servent beaucoup du goût. Saint Jean de la Croix. Ils mettent le goût avec la vision. Et le goût corrige la vision, parce que c'est un toucher interne. Et la mystique, c'est un toucher interne. Quelque chose qui est très particulier. La langue, c'est l'organe particulier du goût. Où il y a une sensibilité très grande. Alors, vous goûtez, vous discernez. Et c'est plus que le toucher. C'est beaucoup plus qualitatif que le toucher. Le toucher est grossier comparativement au goût. C'est très grossier. Et le gosse goûte tout. Une espèce d'avidité extraordinaire. Alors les grandes personnes, elles sont éduquées. Non, non, quand même. Mais derrière le dos des grandes personnes, putain. Et le gosse, et le pouce dans la bouche. Évidemment, les psychanalystes ont fait on voit très bien, c'est pas tout ce qu'ils veulent dire, quand vous avez le toucher, mais c'est très curieux le gosse, de voir, quand il touche, il a envie de goûter. Et le goût demeure, le toucher c'est rapide. Le toucher est affectif, mais le goût est un bien plus affectif encore. Le goût est très lié à l'affectivité. Beaucoup plus que le toucher. C'est les deux sens de l'affectivité. Et le troisième, l'odorat. C'est très curieux. Il y a trois sens de l'affectivité. La vision, beaucoup moins. L'ouïe est plus affective que la vision. Donc l'ouïe est encore affective. Et c'est la vision le moins affectif. C'est le moins affectif. Et c'est encore relié à l'affectivité. C'est le sens de la lumière. Lumière et amour. Et vous avez quatre sens pour l'affectivité. Et un seul sens pour la lumière. C'est curieux, ça. Et ça, c'est intéressant, parce que ça fait comprendre que le réalisme premier et bien affectif. Ça, c'est sûr. Quand on perd le sens affectif, on perd quelque chose.